on va avoir des évolutions. Et je termine avec un gros dossier d'actualité qui revient. Ça a cliqué. Hier, l'homme qui pilotait ce virage numérique, Karl Malenfant, a rencontré à 8 kilos la commission Gallin des enquêteurs. L'ancien vice-président de la SAAC est pointé du doigt depuis le début de la commission Gallin. Là, on le voit vraiment comme le grand méchant de l'histoire. On nous révélait par exemple que Karl Malenfant avait contrôlé certains appels d'offres et d'autres stratégies un peu louches. Hier, avant sa rencontre à 8 kilos, il a publié un rapport de 5 pages dans lequel il dénonçait le déroulement de la commission Gallin. Ce qui ressort de ce document de 5 pages-là, notamment, il indique qu'il aurait souhaité que sa rencontre ne se fasse pas à 8 kilos dans un souci de transparence. Il désole le fait que le statut de participant lui a été refusé, statut qui lui aurait permis d'interroger des témoins. Et pour lui, ce statut-là aussi lui aurait permis de rectifier le tir, alors qu'il indique que depuis le début de la commission, on construit un narratif qui ne suit pas la réalité de l'histoire. Karl Malenfant devrait toutefois être entendu publiquement devant la commission en cours à l'automne en tant que témoin.
Oui, à l'automne, entre le 15 septembre et le 5 octobre. Donc, ça laisse énormément de temps à la commission, j'ai calculé, ça leur laisse 3 semaines pour continuer à construire ce narratif-là vers Karl Malenfant pour dire « Voici le coupable du fiasco, ça clique. » Jacinthe, je me trompe-tu, on est tous carrément en train de dire « Voici le responsable, voici le bouc émissaire, voici pourquoi on a dépensé 500 millions de plus, c'est Karl Malenfant et c'est personne d'autre. »
Ça ressemble à ça, particulièrement hier, Karl Malenfant il s'est fait interroger à huis clos. Puis oui. Juste avant de se faire interroger à huis clos, on se rappelle que Karl Malenfant avait demandé de ne pas être interrogé à huis clos. Il voulait faire son témoignage publiquement, directement à la commission d'enquête. Il disait « Je vois pas pourquoi on me rencontrerait préalablement en huis
clos. » Il voulait même être un participant pour pouvoir questionner les autres personnes et amener lui-même de la preuve.
Oui. Et hier, il est allé à son huis clos, mais juste avant d'entrer à huis clos, il a publié sur son réseau social LinkedIn une lettre de 5 pages, un document de 5 pages dans lequel il explique pourquoi il aurait voulu être considéré comme un participant plutôt qu'un témoin à la commission, pourquoi il s'opposait à ce huis clos. Et en lisant les 5 pages, là, je vous invite, les nerds qui nous écoutent, d'aller voir ça. Sinon, je vais vous le résumer, là, mais dans les 5 pages, dans le fond, quand on prend le temps de le lire puis qu'on n'est pas pris avec nos préjugés déjà, là, qu'on a déjà tout digéré, le prêt à penser qu'on vous sert dans les
J'aime
médias.
J'aime ce que tu dis là avec le préjugé, parce que justement, hier, j'ai regardé ces 5 pages-là en me disant « Karl Malenfant est un employé comme les autres. »
Ouais.
Faut que je regarde ça de façon objective.
Ben oui.
Je te laisse continuer parce que c'est intéressant qu'on le regarde sous cet angle-là.
Ben oui, parce que Karl Malenfant, bien sûr qu'il avait un poste décisionnel au sein de la SAAQ et bien sûr qu'il était vice-président des opérations numériques, mais il reste que... C'est pas le seul décideur. On sait que dans les organisations comme ça, il y avait des patrons au-dessus de lui.
Ben oui.
Il y avait un conseil d'administration au-dessus de lui. Il y a une ministre... Il y a eu des ministres des Transports qui ont pu intervenir à différents moments dans les dossiers. Des ministres qui sont supportés par un sous-ministre.
Ouais.
Le sous-ministre qui est supporté par des sous-ministres associés, des sous-ministres adjoints, je vous le dis, la hiérarchie, elle est énorme au-dessus de lui. Alors, est-ce qu'on désigne une tête de Turc en ce moment? Est-ce qu'on en fait déjà un bouc émissaire? C'est ce qui semble plaider dans son document de 5 pages. Ce qui semble dire, c'est qu'il y a un narratif qui a été construit autour de sa culpabilité présumée, autour de sa responsabilité presque exclusive. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour démontrer que... pour faire les démonstrations que je veux faire, j'ai besoin d'être entendu, d'être traité comme un participant plutôt qu'un témoin. Ça ouvre les horizons parce que sur le tribunal populaire, on dirait qu'il est déjà coupable.
Ouais.
Les gens disent déjà...
Ouais, c'est comme si c'était tout écrit du côté du commissaire Gallin. Ben, regardez, on a caché des choses aux ministres, puis on n'a pas... les ministres n'ont rien à voir avec ça. C'est les dirigeants de la SAAC, notamment Karl Malenfant. Puis à cet effet-là, je te fais réécouter... Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale, lorsqu'elle a donné sa conférence de presse, je l'avais écoutée d'un bout à l'autre.
Oui.
Et je crois qu'elle a erré dans ce qu'elle vient de dire, dans ce qu'elle avait dit à cette conférence de presse du mois de février. Je te le fais entendre.
Bien, on n'a pas donné la bonne information au bon moment. Il y a 2 choses. Là. Jusqu'en septembre 2020, là, les indicateurs étaient au rouge. Tu sais, c'était, on disait, les délais ne seront pas respectés, les coûts ne seront pas respectés, on a des enjeux avec l'Alliance. Septembre 2020, là, on refait un budget avec certains enjeux, je vous dirais. Et après ça, on dit, tous les indicateurs sont ouverts. Mais non, on avait déjà un enjeu de coût avant, septembre 2020. On avait déjà un enjeu de délai. Bien, ça s'est additionné après septembre 2020.
Alors, tu trouves dédouaner les ministres, la vérificatrice générale, en y allant de dénoncer comme ça, en disant « on a transformé les indicateurs, on a caché des choses ». Mais moi, là, ce que je retiens dans cet extrait-là, là, c'est que si tu es le ministre ou le sous-ministre ou le PDG de la SAC, qu'on a rejoué dans le budget en 2020, qu'on a rejoué ces échéanciers. Si tu te fais présenter un tableau vert, là, je te paye assez cher pour que tu comprennes qu'il n'est pas vert, le tableau.
C'est ça. Oui, oui. C'est simpliste comme présentation du dossier. C'est pas avoir travaillé dans une grande organisation là, pour avaler tout ça. Là.
Ben oui.
Là, on tente de nous faire avaler carrément des couleuvres. N'importe qui a travaillé dans une grande organisation, qui a été gestionnaire dans une grande organisation, sait que les contrôles, les vérifications, l'expertise demandée de tous, l'imputabilité exigée de tous, c'est pas vrai qu'il y a une tête de Turc, un bouc émissaire, puis tout le monde s'en fait passer des vite, là.
Tu sais, je te dis pas que Karl Malenfant est coupable de rien,
non,
parce
non.
qu'on écoute justement Daniel Pelletier à la commission Galant, qui était le directeur, justement, des vérificateurs, ce qu'avait dit, justement, Denis Marcellin, qui était le PDG à l'époque.
Là, vous m'excuserez le terme ici, mais c'est exactement ça que je lui ai dit. J'ai dit, Denis, tu te fais bullshiter. Okay? J'avais dit ça comme ça. Espèce de cri du cœur. Ce que j'avais derrière la tête quand j'ai nommé ça à Denis Marcellet, c'était très clair dans mon esprit. C'était par Karl Malenfant. Je peux pas être plus clair que ça.
Oui, peut-être que Karl Malenfant a tenté de bullshiter Denis Marcellet, mais je reviens sur mon point. Denis Marcellet, qui avoue en commission, qui n'avait même pas regardé le contrat, il est pas mal plus responsable, selon moi, de l'axis et d'avoir fermé les yeux sur une situation qui lui sautait aux yeux. Et moi, quand j'ai lu le 5 pages de Karl Malenfant, je me suis attardé beaucoup au tableau de la fin.
Oui,
sur la page 4 ouais, et la
hein,
page 5.
Les ouais, le tableau de la fin que
l'échéancier,
tu nous parles.
Là, ouais. Tout ce qui s'est produit comme action. Moi, je veux absolument l'entendre sur les rencontres ministérielles entre 2013 et 2023.
Ben oui.
Qu'est-ce qui s'est dit là? Et là, peut-être qu'il n'y avait pas de ministre, mais qu'est-ce qui s'est dit aux équipes du ministre?
Oui.
Qu'est-ce qu'on a mentionné? Parce que je reviens à l'extrait de la vérificatrice générale. Si on avait déjà changé le budget en 2020, puis si on avait déjà changé l'échéancier, bien, ça veut dire qu'un PDG, un ministre, puis un DG de conseil d'administration sait très bien que le projet est en train de dérailler.
Ben oui. Ben oui.
Tu peux pas faire semblant que tu le sais pas, là.
Non, non.
Tu peux pas dire « Malenfant m'a menti ». Non, non, tu le sais, là.
Ouais.
Et je veux l'entendre aussi sur les forums d'intégration du vendredi matin avec les 6 VP.
Ouais.
À chaque vendredi matin, ils font une pratique du nouveau système.
Ouais.
Il y a des bugs qui sortent de partout. Et là, ben après ces bugs-là qui sortent, ben c'est sûr que les dirigeants des technologies de l'information doivent se tourner vers les gens qui ont le chéquier et dire « Hey, écoute, je viens de vivre 102 bugs. » Je nomme un exemple fictif. Là.
Ouais.
Ça va me prendre 20 millions de plus parce que ça me prend, il faut que je développe telle affaire, telle affaire, telle affaire. Voici le temps de plus pour les consultants. Voici ci, voici ça.
Mm-hmm.
Sont 6 VP à assister à ça.
Ouais.
Qui relèvent directement du PDG de la SAC.
Ouais.
À un moment donné, là,
non, c'est ça.
Ça peut pas juste être Malenfant.
Non, non. Karl Malenfant, ce qu'il dénonce, c'est d'être déjà désigné comme le grand coupable par un narratif qui est déjà préconstruit. La rencontre à huis clos d'hier va permettre à la commission Galant d'établir d'avance sur quoi on va le questionner, sur quoi on ne le questionnera pas. Donc, son témoignage à huis clos d'hier va permettre de construire un questionnaire, construire ce qui sera présenté au public à la lumière des informations qu'il va avoir données hier à huis clos. Lorsqu'il sera appelé à témoigner à la commission publique, bien là, il va devoir répondre à certaines questions du procureur de la commission Galant. Mais lui ne pourra pas, parce qu'il est considéré comme témoin au lieu de participant, il ne pourra pas accéder aux documents que la commission veut mettre en preuve. Il ne pourra pas demander d'entendre des témoins autres que ceux choisis par la commission. Il ne pourra pas déposer des documents en preuve. Il n'aura pas non plus le droit que son avocat interroge ou contre-interroge des témoins. Puis, il n'aura pas le droit de se faire interroger par son avocat publiquement. Parce que, autrement dit, là, les questions vont être stagées d'avance par le procureur de la commission Galant. Et son propre avocat, à lui, à M. Malenfant, ne pourra pas venir contre-interroger M. Malenfant à la lumière de, d'autres informations que M. Malenfant voudrait peut-être mettre en lumière. Bref, il y a un contrôle absolu sur ce qu'il va pouvoir... ce qu'il peut dire, parce que puis le contrôle absolu est extérieur à lui-même. Là. Comprenez-moi bien, son propre avocat ne pourra pas le questionner. Il ne pourra pas dire hey, « Mais moi, faudrait que Joël Boutin, par exemple, qui a déjà travaillé avec le ministre Éric Kerr dans la transformation numérique, j'aimerais ça qu'elle soit entendue par la commission. Ouais. » Ben, il ne pourra pas faire ça parce qu'il est témoin. Il ne peut pas demander à avoir d'autres témoignages pour corroborer ses versions ou pour appuyer ses versions. Donc, est-ce qu'on va voir la vérité? Est-ce que ça va être vraiment une commission transparente? Elle est déjà en train de se préconstruire. Je ne suis pas en train de dire que M. Malenfant est blanc comme neige. Je ne suis pas en train de dire que je crois déjà qu'il n'est pas coupable. Je suis en train de dire que dans le processus, il y a déjà des grandes questions qui sont soulevées. Là.
C'est anti-juridique. Si tu es dans une cour de justice, ton avocat va interroger les autres. Ton avocat va t'interroger.
Ben oui.
Tu vas être assis à la barre des témoins.
Ouais.
Tu vas vivre un contre-interrogatoire serré. Le juge va pouvoir intervenir aussi, dire « Hey, là, M. Malenfant, vous n'avez pas le droit de dire ça. » Puis tout ça. C'est anti-juridique ce qui se passe avec Carl Malenfant à l'heure actuelle.
Ah ouais.
Parce qu'on crée justement... Et il a raison. On crée ce narratif-là vers lui et on pose les questions qu'on veut bien poser. Et je le rappelle, le commissaire Galant a des liens très étroits avec Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor, celle qui signe les chèques.
Tu fais tellement bien de le dire. C'est une vraie joke. On est face à une vraie joke. C'est pas sérieux. On nous prend, on prend les électeurs, on prend les citoyens pour des gens pas éduqués, pas renseignés, qui n'ont pas le temps de regarder les 5 pages qui ont été écrites par Carl Malenfant, lire ça, digérer ça, réfléchir et se dire « Ah oui, ben, sais-tu qu'il y a une vision là-dedans qui est intéressante? » Et ce que M. Malenfant soutient, c'est que si la commission vise à faire la lumière et savoir toute la vérité sur cette affaire, ben pour avoir toute la vérité, ça prend plusieurs versions, ça prend toutes les versions possibles. Moi, j'ai l'impression qu'on est face à une commission Charbonneau 2.0 où on avait mis en cause plusieurs figures publiques, mais qui avaient servi de bouc émissaire pour épargner la classe politique.
Ouais.
Parce qu'on a vraiment épargné la classe politique dans la commission Charbonneau.
Et on l'a stagé au maximum en mettant des menottes à Nathalie Normando en plein matin, comme si c'était la criminelle des criminels.
Oui, oui. Puis les boucs émissaires de la commission Charbonneau, rappelez-vous, on parlait de M. 3% du système d'Union Montréal, M. Bernard Trépanier. On parlait de Gilles Surprenant, l'ex-ingénieur municipal. On a parlé de Gérald Tremblay, le maire démissionnaire de Montréal. Gilles Vaillancourt, le maire de Laval, qui avait été inculpé pour corruption. Michael Applebaum, le maire intérimaire qui a été arrêté. On a choisi certaines têtes de Turcs, certains boucs émissaires, certaines personnes qui faisaient partie d'un grand système, mais dans ce grand système-là, est-ce qu'on a réellement dénoué tous les nœuds de ce système-là pour s'assurer que
la réponse
ça soit
est
net.
Non. Le pont de l'île d'Orléans est au-dessus de 3 milliards. Un feu de circulation est au-dessus d'un million. Ça. Des abribus tempérés coûtent au-dessus d'un million. T'as ta réponse.
Ben oui. Dans le milieu de
nos
la
nos routes ont des trous partout, mais coûtent plus cher.
Non, non, la stratégie médiatique puis politique qui est associée à la commission Charbonneau a mis en avant plusieurs individus, mais c'était des boucs émissaires. Puis ça a permis d'offrir une image nette et satisfaisant un besoin symbolique là, de « Ah, on attribue la responsabilité à certaines figures », mais le système de corruption qui était très complexe et très diffus n'a pas été complètement dénoué.
T'as tellement, tellement raison. Je lis la réaction d'un auditeur, d'une auditrice. Tu pourras nous écrire ton nom. Salut les amis, c'est un frame. C'est un show qui nous donne pour bien paraître, pour montrer que ce qui font des choses, mais au final, il n'y a pas personne qui va perdre sa job. Il n'y a pas personne qui va être redevable de tout ça. C'est de même que le Québec est construit. Corruption, corruption par-dessus corruption. Plus personne paye le prix. C'est plate, mais c'est notre Québec. C'est notre modèle québécois. Moi, c'est pour ça que je me fais un devoir d'en parler à la radio.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas qu'on devienne ce Québec-là. Malgré le fait qu'on vit justement des moments plus difficiles quand on regarde ça. Je te fais entendre François Bonnardel. C'est le 28 mai dernier à l'antenne de Cube Radio avec Benoît Dutrisac. Je suis tombé sur le derrière quand j'ai entendu son arrogance en onde. Écoute bien ça.
Vous avez été ministre des Transports. Hein? Là, vous êtes ministre de la Sécurité publique. On a parlé du scandale de la SAQ, là, la SACLIC. Comment je poserais ça, cette question-là? D'abord, où est-ce que vous étiez? Le saviez-vous? Collusion, fraude, corruption, on apprend toutes sortes d'affaires. Le saviez-vous, tout ça?
C'est pas l'envie qui manque, M. Dutrisac, de vous dire ce que je sais.
Mais faites-vous plaisir.
Est-ce que je ne savais pas? En tout respect pour le commissaire, pour les procureurs, je vais garder mes commentaires pour moi. Mais c'est ça. Ça me tente très énormément de vous donner des éléments de réponse, mais je le ferai pas.
Ça, c'est le même François Bonnardel qui est sorti au mois de février avec le rapport de la VG dans les mains en disant « Vous voyez, elle le dit, on m'a menti, je ne savais rien. » Et là, le 28 mai, il dit à l'antenne de Cube Radio à Benoît Dutrisac « C'est pas l'envie qui me manque de vous dire ce que je sais.
Mm. »
C'est un ministre.
Mm.
Il veut-tu bien faire une conférence de presse puis nous dire ce qu'il
sait? Ben oui.
Il a pas besoin d'attendre une commission puis de se présenter à la commission pour nous dire ce qu'il sait. On le paye comme ministre pour qu'il règle nos problèmes.
Ouais.
Il a été à la tête de la SAC. Il a été l'élément déclencheur du fiasco SACLIC.
Mm.
Il ose dire avec arrogance, parce que si vous voyez la vidéo, là, il regarde Benoît Dutrisac en voulant dire « Hey, je suis François Bonnardel. » Il ose dire avec arrogance « J'ai vraiment le goût de dire ce que je sais. Allez-y, M. Bonnardel.
Hey.
On payera pas des millions de dollars dans une commission d'enquête.
Ouais. »
Ça n'a pas de sens faire ça aux citoyens.
Non, non, ça n'a aucun sens. Puis de toute façon, moi, je veux plus entendre de ministre dire « je le savais pas, on me l'a
non,
pas dit ».
Non, c'est ça, là.
Ta job, c'est de savoir.
C'est d'aller chercher l'information.
C'est d'aller la chercher. T'es pas passif dans ton rôle de ministre, là. T'es pas face à des sous-ministres associés, sous-ministres adjoints, payés 200-300 000 par année avec pension à vie, parce que sachez que c'est des sacrées belles conditions de travail, ces gens-là qui sont... Et ils sont nommés par le gouvernement, ces gens-là. Et si toi, t'es pas capable d'aller chercher l'information, si t'es pas capable d'aller contre-interroger ce qu'ils disent, de t'assurer qu'on fait le tour de toutes les questions ou qu'on a l'heure juste.
Ben, c'est
qu'est-ce
ça.
Tu fais là?
Qu'est-ce que tu fais là? On va te remplacer parce que t'es pas compétent. Donc, c'est de l'incompétence. On n'a pas besoin d'une commission pour savoir qu'il y a eu de l'incompétence au niveau des dirigeants de la SAC. Et malheureusement, ça l'a continué parce que Geneviève Guilbeault s'est pas plus occupée du poulailler. Là, elle a congédié Éric Duchamp pour bien paraître, mais Éric Duchamp n'a pas été mieux que Denis Marcellin. Donc, c'est encore gangréné, la SAC.
Toi, tu dis de l'incompétence, moi, je dis de l'insolence.
Ces
gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont investis de leur titre, du prestige qui vient avec le titre.
J'adore ce que tu
dis. Ils ne sont pas investis d'une responsabilité, d'une imputabilité, d'une mission de service de l'État. Ah, ils disent tous sur leurs réseaux sociaux, hey, c'est un privilège de vous représenter, cher citoyen de ma circonscription. Arrête-moi ça, c'est un privilège de vous représenter. C'est un devoir et des responsabilités que vous avez. Et vous n'avez pas un titre, des fonctions et des prestiges qui sont associés à ce titre. Vous avez une responsabilité, vous avez une imputabilité et vous êtes au service des citoyens, vous êtes au service de nos deniers publics.
Clairement.
Et de s'assurer que c'est bien dépensé, c'est bien géré. On se rappelle, je reviens à la commission Charbonneau, mais Jacques Duchesneau avait mentionné des liens entre les hauts responsables politiques et des donateurs douteux.
Oui.
Mais Duchesneau n'a jamais transmis de nom précis au directeur général des élections, ce qui a fait en sorte qu'on n'a jamais été capable d'aller plus loin dans
c'est le... C'est mort dans l'œuf.
Ben oui.
Il y a beaucoup de choses qui meurent dans l'œuf quand ça implique des hauts ministres puis des premiers ministres.
Oui, Mais c'est sûr, ils détiennent tellement de pouvoir ben à oui. te nommer à des postes de sous-ministre, sous-ministre associé, sous-ministre adjoint, je vous rappelle, qui viennent avec une pension à vie et des gros salaires. Sachez que les sous-ministres gagnent plus cher que les ministres.
Hein. Oui, exactement.
C'est des gros, gros salaires, ouais.
Puis des
belles conditions
de travail. Plus cher que le premier ministre aussi.
Oui, oui, absolument. Et puis, ben, ils aspirent tous à d'autres belles nominations ouais. aussi. Je reviens toujours à ce
toujours
système-là.
Tu me parles toujours des délégués
hein.
à l'étranger. Hein, ben oui. Bon, aller finir ma carrière en France.
Ben, c'est drôle, j'ai jamais vu de délégué général du Québec ou de délégué à l'étranger qui n'avait pas un petit lien avec le gouvernement.
Bien servi l'État.
Oui, oui. Vous n'entendrez pas un critique du gouvernement se faire nommer. Là.
Non. Courte pause à Boulevard 102.1, Boulevard Again ce matin, mais avant, Mathias, il y a de la circulation.
Oui, il y aurait un accident sur Henri IV à hauteur de Boulevard Laurier, direction nord. Ça cause beaucoup de ralentissements sur le pont présentement. Là. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait pas vu du ralentissement sur le pont. Eh bien, matin, ça n'en cause. Ça part justement d'Henri IV vis-à-vis de Boulevard Laurier. Ça va jusqu'à Avenue des Chutes en direction nord. Également, Boulevard Laurier qui a du ralentissement là, en raison de ça. Lorsque vous rentrez dessus en direction ouest, ça va jusqu'à route de l'église. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Préparez vos textos 418-971-1021 parce qu'après cette courte pause, on va regarder quelles sont les pires routes ici dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. À présent, sur le podium, c'est le viaduc au-dessus de l'autoroute Henri IV, avenue Chauveau. Apparemment que les suspensions à l'heure actuelle ne suffisent pas à passer dans ces trous sur ce viaduc. Donc, textez-nous 418-971-1021. On veut savoir vos pires routes, puis nous autres aussi, on a une petite opinion là-dessus. À vous partager, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est Boulevard Against le matin.
Boulevard 102.1.
Pour rejoindre